À la une des quatre colonnes, la chronique qui décrypte l'actu sur Radio Immo.
À la une des quatre colonnes ce vendredi, Hubert Brigand, député de Côte d'Or, monte de nouveau au créneau pour construire sa prison modulaire à Châtillon-sur-Seine. Alors que la surpopulation carcérale atteint un nouveau record, Hubert Brigand, député LR de Côte d'Or, élu en 2022 et réélu en 2024, ne désespère pas de voir un établissement pénitentiaire construit chez lui. Il fait partie des parlementaires les plus tenaces du Palais Bourbon, car cela fait près de 40 ans que l'État lui refuse de construire sa prison modulaire. En 1987, il n'est encore que maire adjoint de Châtillon-sur-Seine. Qu'il essuie, nous confie-t-il, son premier échec auprès d'Albin Chalandon, garde des Sceaux, auprès de Jacques Chirac, et ensuite le deuxième auprès d'Elisabeth Guigou en 1999. Après plus d'un millier de pages sur son bureau et plus de 150 échanges entretenus auprès de Marie-Lise Lebranchu, Michel Alliot-Marie, Michel Mercier, Christiane Taubira, Jean-Jacques Urvuas, Manuel Valls, ou encore plus récemment Édouard Philippe, Jean Castex et l'actuel garde des Sceaux, Gérald Darmanin. L'élu de Côte d'Or poursuit toujours sans relâche ses requêtes. En parallèle, Laurent Panifou, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, vient juste de confirmer la semaine dernière aux questions au gouvernement la création de nouvelles places de prison et rappeler le plan de construction de 3000 places d'ici à 2028 pour des prisons dites modulaires. Et Gérald Darmanin a pour objectif de construire 3 fois plus vite et pour 2 fois moins cher, afin de gagner en efficacité. Une première phase a déjà commencé. Sur les 17 sites retenus l'an dernier, le premier, situé à Troyes, verra sa première pierre posée à l'automne et sera en voie d'achèvement d'ici la fin de l'année. Écoutons Hubert Brigand, député de la Côte d'Or, qui revendique son éternel acharnement depuis 40 ans et assure que la prison créerait 150 emplois directs et autant d'emplois indirects, sans oublier de nouveaux logements dans sa commune.
Alors le gouvernement, tout à l'heure, par la voix du ministre des Relations avec le Parlement, a confirmé ce qu'avait dit la semaine dernière le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, à savoir qu'il y avait en cours 3000 places de prison modulaire en construction ou qui vont démarrer. Il a même été cité un certain nombre de villes, le Sud-Est, Brest, Troyes, etc. Je veux simplement rappeler que sur le pays châtillonnais, d'où je suis originaire par des mandats locaux, j'ai, il y a déjà très longtemps, plusieurs décennies, souhaité qu'un établissement pénitentiaire puisse voir le jour. Parce que dans cette région rurale, nous avons eu la malchance de perdre des établissements industriels, hein, d'ailleurs dans toute la partie rurale de la Haute-Côte d'Or, et que je suis à la recherche d'emplois pour compenser ces pertes industrielles. Et le dossier de prison, puisque c'est d'actualité, puisque soi-disant une volonté du gouvernement, eh bien me semble convenir à un territoire rural comme le pays châtillonnais.
Justement, pouvez-vous nous refaire le retour de ce lancement de projet carcéral au sein de votre circonscription? On a bien compris, c'est un parcours de labyrinthe, c'est un parcours du combattant hein, pour pouvoir lancer un projet de ce type, et notamment en construction modulaire.
Alors, c'est vrai que les premiers pas, je les ai faits dans le cadre de mon mandat local, de mes deux mandats départementaux, le mandat départemental et le mandat municipal, avec plutôt des courriers d'attente, que je trouve d'ailleurs limite sympa. Et bien sûr, depuis que je suis parlementaire, le dossier a avancé, puisque le ministre m'a demandé de faire des propositions, ce que j'ai fait, de terrain, des propositions de prix.
En l'occurrence, quel ministre ?
Ben, le ministre Darmanin, lui-même, hein, j'ai un ensemble de courriers qui m'encouragent, me dit-il, compte tenu de la recherche de terrain, c'est une opportunité qu'un territoire soit intéressé. Sauf que, au fil des mois, je dirais même, voire des années, je vois se construire ou être initié des dossiers un peu partout en France, mais pas dans le pays châtillonnais. Donc je commence à m'inquiéter, je suis pas très content de la longueur des réponses que j'ai à chaque fois que je fais un courrier. Je trouve ça limite poli. Je me pose des questions sur les critères choisis par le ministre, en sachant que je n'ai jamais eu de réponse négative et qu'à chaque fois on me pose une question, je réponds. On me repose une question, je réponds. Ça va se terminer quand ?
D'autant plus que vous êtes souvent vous posez la question au gouvernement sur le sujet hein, depuis quelques années.
C'est vrai, j'ai eu la possibilité de m'en exprimer dans l'hémicycle, avec chaque fois plutôt des réponses qui laissaient augurer plutôt une suite positive. Donc c'est pas comme ça que moi je travaille. Donc aujourd'hui, je somme le ministre de la Justice de me dire quel est son choix au niveau national, de me dire clairement ce qu'il en viendra de ma demande. Et je voudrais simplement rappeler que mon premier courrier pour avoir un établissement pénitentiaire date de 1987, à l'époque d'Albin Chalandon. Voilà, donc vous voyez qu'il faut une sacrée patience quand même, mais comme on dit quelquefois, la patience quelquefois elle a des limites.
Concrètement, vous êtes en relation avec l'administration immobilière et pénitentiaire. Comment ça se passe lorsqu'on est député d'une circonscription pour construire une prison ?
Oui, alors j'ai des contacts, bien sûr, difficiles. Je me mets à la place du petit élu local, je dirais mission impossible pour lui. Hein, quand je vois le chemin de croix pour un parlementaire, bref.
Pourquoi ?
Ah ben ça, faudrait le demander au ministre ou aux personnes qui travaillent pour lui. Hein. Moi j'ai répondu à toutes les questions. Je souhaite que maintenant on puisse rentrer dans le concret. Il y a des opérations concrètes qui vont démarrer partout. Donc je commence à m'impatienter un peu, à me poser des questions hein, sur les choix qui sont faits, qui fait les choix, en fonction de quels critères, qu'est-ce qui ne plaît pas au monde rural parmi les décideurs parisiens. Je pose carrément la question.
Dans un contexte où on assiste à une crise du logement sans précédent sur le territoire, est-ce que ce projet de prison de la circonscription peut créer du logement ? Avez-vous des chiffres ? Et qu'est-ce que ça peut générer par ailleurs en termes d'activité également commerciale au sein de votre circonscription et sur votre territoire ?
Alors ce qui est paradoxal, c'est que le ministère de la Justice s'entête à vouloir créer des prisons dans des zones ou dans des villes qui n'en veulent pas. Crisnois, Noiseau, etc. Ce qui veut dire qu'il y a un combat des habitants et des élus locaux estiment déjà avoir une densité de population et une prison ne les intéresse pas puisqu'ils n'ont pas besoin d'activité économique, ils n'ont pas besoin de création d'emplois. Moi, je vois à travers la construction d'un établissement pénitentiaire la création d'emplois. Nous avons perdu beaucoup d'habitants. Nous avons des maisons à vendre en milieu rural dans des conditions financières intéressantes. Donc me dire problème de logement en région parisienne, peut-être, mais en milieu rural, sûrement pas.
Pour le logement, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que ça peut créer du logement, votre projet ?
C'est un établissement avec de petite taille maintenant, avec des courtes peines, de 100 à 150 places, ça fait pas loin de 150 salariés. Donc on est à même donc de pouvoir loger sur un territoire géographique le temps de la construction et de s'organiser pour accueillir tous ces habitants.
Vous avez identifié justement combien ça pourrait représenter de familles ?
Oui, ça fait 150 salariés, ça peut faire 150 familles. J'ai déjà regardé un petit peu la possibilité sur un rayon géographique, je dirais tout à fait convenable de pouvoir les loger. Ça fait de l'activité, ça fait des ménages. 150 salariés, ça fait 400-500 personnes. Ça fait du monde dans les écoles, ça fait du commerce plus important. Bref, il y a plein de retombées économiques. Si le gouvernement, pour remplacer les usines qu'il est en train de fermer en milieu rural, il a un autre plan, je suis preneur également.
S'agissant des prisons, il y avait eu un projet de partenariat public-privé engageant des groupes de BTP. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous savez ? Qui vont être les constructeurs ou les groupes de BTP ou promoteurs sur ce éventuel projet sur votre circonscription ?
Alors, dans mes différentes étapes et dans mes différentes années de recherche, il y a eu ce partenariat évoqué, mais il y a déjà quelques décennies. Je n'ai pas entendu parler ces derniers temps d'un partenariat public-privé, comme vous me le dites, dans le cadre de construction de prisons. Hein, donc, je pense que c'est le gouvernement gouvernement qui prendrait ça à sa charge. Ça ne dérange pas le gouvernement de construire avec force, de vouloir construire avec force des prisons en milieu urbain avec un foncier qui est très très cher, alors que chez nous, on a un foncier tout à fait acceptable. Il y a plein de critères qui font que c'est une opportunité. On a dit trop souvent, les différents ministres de la justice, que ce sont les élus locaux qui ne voulaient pas de prison. C'est complètement faux. Il n'y a pas que ça qui est faux dans ce qui est dit. Hein. Mais il y a ça entre autres. Hein. Ils n'en veulent pas dans les régions urbaines, mais il y a beaucoup de régions en province qui souhaiteraient avoir un établissement pénitentiaire et ça n'intéresse pas le gouvernement. J'aimerais savoir pourquoi.
Enfin, dernière question, les finances, au moment où on n'a toujours pas pour le moment une idée sur le budget, combien il faut pour financer une prison de ce type ? Et est-ce que ce ne sera pas le sujet de Bercy au final ?
Eh bien, à ce moment-là, il faut qu'on m'aiguille vers Bercy. Mais qu'on fasse une prison modulaire à Brest ou ailleurs, ça ne sera pas moins cher que d'en faire une en pays châtillonnais.
Et pour conclure, on apprend avec vous que Benoît Apparu, l'ancien ministre du Logement, à la tête de la PIGE, vous a contacté récemment.
Alors, on m'a aiguillé vers novembre-décembre vers Benoît Apparu en me disant que c'était le nouveau responsable de l'immobilier des prisons. Alors, je l'ai eu en contact et il m'a demandé une première question en disant tout ça c'est bien gentil, mais il me faudrait des terrains. Donc, j'ai travaillé sur ce dossier et j'ai trouvé des propriétaires fonciers, 5 ou 6, qui m'ont dit on est partant pour faire en sorte de développer l'économie dans le pays châtillonnais. Donc, j'ai 5 ou 6 terrains à proposer. Ce que j'ai fait à Benoît Apparu. Alors, après, il m'a dit « Ah, mais oui, mais à quel prix ?» Alors, j'ai négocié avec les propriétaires un prix qui défie toute concurrence. J'ai écrit tout ça à Benoît Apparu il y a déjà 6 semaines. J'attends la réponse. Alors, on va essayer quand même de ne pas mettre 3 ou 4 mois pour me répondre à chaque fois, parce que dans 10 ans, on y sera encore. Donc, je réponds à toutes les questions qui me sont posées. J'aimerais bien avoir en retour la suite.
Au moment où les résultats de l'appel d'offres ont été annoncés en décembre 2026 par le ministère de la Justice via l'Agence publique pour l'immobilier de la Justice, l'APIJ, dirigée par l'ancien ministre du Logement et président d'Emerich, Benoît Apparu, depuis le 1er novembre 2025, ce sont Bouygues Bâtiments, GCC Cugno, GGA, Smart Building qui viennent d'être désignés pour réaliser les 226 premières places de prison modulaire en faveur des quartiers de semi-liberté, dits QSL, d'ici la fin de l'année 2026. Chacune de ces 3 équipes réalisera respectivement un premier projet de 50 places, 60 et 100 places qui seront livrées sur des sites déjà attribués sur les fonciers d'établissements pénitentiaires à Troyes, Maubeuge et Fleury-Mérogis. En attendant les premiers coups de pelle, le député de Côte d'Or, Hubert Brigand, attend toujours une réponse, cette fois-ci définitive, pour sa prison à Châtillon-sur-Seine.
À la une des 4 colonnes, la chronique qui décrypte l'actu sur Radio Immo.